Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débat de la Tribune de l'Art, organisé autour de la question des restitutions. Rendre le patrimoine africain à l'Afrique, voilà la parole forte que le président Macron a prononcée à Ouagadougou le 28 novembre dernier, ajoutant « Je veux que d'ici à 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Ces mots prononcés par le président de la République ont évidemment fait beaucoup de bruit. Depuis, il a nommé deux experts chargés de rendre un rapport sur les conditions de retour de ses œuvres, Bénédicte Savoie et l'écrivain sénégalais Félouine Sarr. Les musées français sont restés muets sur cette question extrêmement sensible qui touche à l'inaliénabilité du patrimoine, à l'exception toutefois du président du Quai Branly, Stéphane Martin, qui semble s'y montrer favorable ou en tout cas lui prêter une oreille attentive, sachant que Stéphane Martin n'est en aucun cas un conservateur ou un scientifique. D'une manière intéressante, il y a eu beaucoup de réactions négatives en Belgique et nous avons choisi, afin de rendre le débat moins franco-français, de n'inviter aujourd'hui que des personnes belges, que des Belges, à l'exception de Julien Volpert, qui est un Français mais qui travaille en Belgique. Chacun dans son domaine a beaucoup réfléchi aux questions des restitutions et connaissent bien la France, ses collections et ses lois, et pourront étendre la discussion d'ailleurs bien au-delà de la question du patrimoine africain, comme je le disais. Nous avons donc autour de la table Yves-Bernard Deby, avocat, spécialisé en droit de l'art, du commerce de l'art et des biens culturels. Julien Volpert, maître de conférence et conservateur au Musée royal de l'Afrique centrale. Et enfin Pierre-Yves Kéris, historien d'art et chef de département à l'Institut royal du patrimoine artistique, qui pourra d'ailleurs étendre effectivement ce débat bien au-delà du patrimoine africain. La première question, elle est assez simple. Est-ce que vous, en Belgique, on se sent concerné par l'idée d'Emmanuel Macron de dire qu'on doit rendre l'art africain aux Africains? D'abord, on verra avec Julien Volpert, on se posera la question de savoir ce que c'est que l'art africain. Est-ce qu'en Belgique, c'est une question qui se pose?
Oui, c'est une question qui se pose et qui se posera.
Bernard Deby.
C'est une question qui se pose et qui se posera. Je précise même dans la présentation, je suis un avocat belge, mais j'exerce en France. Au moins, la moitié de ma pratique est française. Donc, mais oui, en Belgique, la question se pose, évidemment.
On verra avec Pierre-Yves Kéris que la question se pose d'ailleurs de restitution d'œuvres françaises à la Belgique. Mais je me tourne vers Julien Volpert pour savoir, l'art africain, est-ce que ça existe? Ou est-ce qu'il y a un art africain? Ou est-ce qu'il y a des arts africains? Qu'est-ce que c'est l'art africain?
Là, si tu cites une question, pour commencer, très, très philosophique, plus évidente à y répondre, mais effectivement, qu'est-ce que l'art africain? Il faut savoir que l'art africain ne forme pas un ensemble, un tout homogène. Il y a de grandes différences si on parle, par exemple, de l'art chrétien d'Éthiopie, l'Éthiopie est en Afrique, je ne sais pas du contraire, ou si on parle, par exemple, de certains types de mascarades du Congo, on est sur des choses, sur des registres complètement différents, sur des cultes différents, sur des mentalités différentes, sur des cultures donc différentes. Il faut savoir aussi que cette notion d'art africain, on a tendance, souvent en Europe d'ailleurs, à ne pas la considérer au point de vue déjà spatial, quand on parle d'art africain, comme je viens de le dire, de ne pas faire distinction entre les différents pays, différentes cultures, mais aussi à ne pas la considérer d'un point de vue temporel. On peut parler d'art classique africain, pour certains types d'objets. Il y a des objets qui ont servi à un moment donné, qui étaient liés à des cultes. Les cultes ont disparu, ces objets n'existent plus, je veux dire, dans le sens, ne sont plus utilisés. Et puis, il y a aussi des fois des mascarades, certains cultes qui ont continué d'avoir cours, on va dire, et qui ont, pour certains, connu une évolution aussi au fur et à mesure de l'évolution de la société dans son ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, on est sur des données assez, assez complexes.
Alors, on ne peut pas parler d'art africain, en fait. Quand on dit rendre l'art africain à l'Afrique, ça ne veut rien dire.
Ça n'a pas de sens. La déclaration de Macron était de dire donc rendre ce patrimoine africain à l'Afrique. À ma connaissance, et vraiment sous le contrôle des historiens qui sont ici, il y a autant de patrimoine africain qu'il y a d'ethnies africaines.
Alors, M. Deby, dites-nous par rapport à la loi, parce que finalement vous connaissez très bien la loi, à la fois la loi française et la loi belge. Que dit la loi actuellement, sachant qu'une loi, ça peut se changer? Que dit la loi à propos des restitutions éventuelles par les musées français ou belges?
Je ne voudrais pas être long, mais il y a vraiment deux axes. Il y a le côté public, les collections qui sont publiques, et il y a le côté privé, parce que ça a été évoqué, et j'observe un glissement de terrain. Alors, sur le côté des collections muséales entrées dans le domaine public français, c'est assez simple, si l'on respecte la loi. Le Code du patrimoine prévoit que c'est inaliénable. C'est l'article L451.5. Donc, on ne peut pas le céder, on ne peut pas le donner, On dit également que c'est imprescriptible, c'est insaisissable. Bref, il est impossible, et c'était le sens de la réponse faite par Jean-Marc Ayrault au président Talon, ces biens sont en collection muséale publique, nous ne pouvons pas vous le restituer. J'aime pas le terme, si vous m'interrogez, je vous dirai un mot là-dessus. Ces biens qui sont en collection donc publique inaliénable pourraient faire l'objet d'un déclassement, procédure assez longue. Mais là aussi, il y a un écueil qui est très difficile à franchir pour ceux qui voudraient déclasser, c'est que le même code, et c'est le point 7 de ce même article, prévoit que ce qui a fait l'objet d'une donation ou d'un legs ne peut pas être déclassé. Donc, si on se met sur le point de vue purement du droit qui s'attache à ces collections muséales publiques, c'est inaliénable, aucune restitution n'est possible. Si l'on réfléchit aux collections privées maintenant, il y a aussi beaucoup de règles qui s'opposent à toute restitution. Le droit de propriété est un droit garanti en France, garanti dès la déclaration de 1789, reprise au préambule, auquel renvoie le préambule de la Constitution de 58. Il y a énormément de règles sur la prescription. Bref, toute action qui tenterait d'obtenir une restitution de biens publics ou de biens privés échouerait nécessairement. La grande différence, c'est que pour la première fois, et c'est pour ça qu'il y a tant d'articles, c'est pour ça que vous avez la gentillesse de nous inviter aujourd'hui, c'est on a vraiment un changement de philosophie avec les déclarations d'Emmanuel Macron, suivies d'ailleurs des faits, puisqu'il y a la nomination, comme vous disiez, de deux personnes pour étudier. Bien. Voilà, on a vraiment ce changement total et on est au-delà du droit. La question qu'il faudra se poser, que j'espère que vous nous poserez, c'est de savoir... Que mettons derrière ? Pourquoi le terme restitution ? Et quelle est la philosophie qui préside à cette demande ?
Alors, Pierre-Yves Kéris, donc je voulais intervenir et je vous demanderai également de nous dire un peu ce qu'il en est actuellement en Belgique par rapport à des entre guillemets, vols, pillages, ou tout ce qu'on veut, très anciens, encore plus anciens d'ailleurs que ceux qui se sont passés en Afrique. Donc, ce sont les œuvres prises par les armées napoléoniennes en Belgique, puisque vous avez écrit un rapport à ce sujet, d'ailleurs un rapport qu'on trouve sur la Tribune de l'Art.
Mais je crois, et Maître Deby, quelque part, en a fait l'illustration, qu'on est en train de confondre, le président Macron en particulier, droit et morale. Le droit, pour le moment, il est clair. Les lois, bien entendu, peuvent se changer. Enfin, il y a quand même un principe fondamental en démocratie, c'est la non-rétroactivité des lois. Et donc, en fait, la vraie discussion, elle est sur le plan moral. Et il y a quand même un sacré précédent qu'on va devoir évoquer d'une manière ou d'une autre par la France, c'est le fameux cas des manuscrits coréens. En 1993, le président Mitterrand a, sans aucun respect de la législation, restitué de facto à la Corée un manuscrit qui appartenait à la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes trois ici à venir d'un pays monarchique, mais je vois que ce sont vos présidents de la République qui se conduisent comme Louis XIV. Je ferme la parenthèse. Mais elle était trop tentante. La question, c'est effectivement au niveau du principe. Et effectivement, je vois en Belgique, depuis une trentaine d'années, la question qui ressurgit de réclamer à la France des tableaux qui ont été spoliés à l'époque révolutionnaire. C'est une affaire qu'on croyait enterrée de longue date. Pourquoi ressurgit-elle ? Mais à mon avis, il y a deux puissants facteurs qui sont derrière. Je pense que ça vaut aussi pour l'Africain. C'est un double phénomène. D'abord, celui de la restitution des biens qui ont été spoliés par les nazis, qui montre que le principe de restitution est acceptable. Et d'autre part, les prises de position de l'UNESCO en faveur de la restitution à des anciens pays qui ont été colonisés, l'UNESCO recommandant même de ne pas tenir compte du principe de non-rétroactivité des lois, du type de la convention UNESCO de 1970. À partir du moment où effectivement on a cette pression, même en Belgique, on est en train de se dire, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ces tableaux que les Français ont effectivement spoliés en 1794-95? Même si, je dirais, on peut accepter qu'ils sont pleinement propriétés aujourd'hui des municipalités, pour ce qui concerne les œuvres dans les musées de province, sans mettre en cause le droit de propriété, mais la question va se poser plutôt, à mon avis, sous forme de dépôt. C'est finalement la solution qui a été adoptée pour la Corée, où le président Sarkozy, si je ne me trompe, a décidé que les manuscrits seraient déposés selon des prêts de 5 ans renouvelables, ce qui dans les faits...
C'est une manière de contourner la loi, parce qu'en fait, personne, même en France, et encore moins en Corée, n'imagine que ces manuscrits sont partis temporairement.
Tout à fait. Il y a en fait deux précédents, je dirais, en France. Il y a d'une part cette question des manuscrits coréens, avec deux étapes, vous disiez président Mitterrand d'abord et puis Sarkozy ensuite, qui l'un comme l'autre, d'abord Mitterrand, Sarkozy ensuite, déclare qu'il va restituer, ce qui d'ailleurs provoque en France un tsunami hein, chez les conservateurs, c'est assez terrible. Et on apprend, et c'est incroyable, au président Sarkozy que ça n'est pas permis. Il y a ce principe du caractère inaliénable des collections publiques. Et donc, on trouve un tour de passe-passe qui contourne la loi. Je vous rappelle qu'un état de droit, c'est quand même ce qui nous protège tous, hein, quelle que soit la notion que l'on évoque. Et donc, on contourne la loi en faisant un prêt de 5 ans renouvelable à perpétuité, mais il suffit de lire comment la Corée va accueillir. Pour eux, ça a été restitué. Ça, c'est le premier précédent. Le second, c'est la question des têtes maoris. Par aussi des tours de passe-passe, une loi d'exception qui est la loi du 18 mai 2010, la France va restituer les têtes maoris de manière globale et ouvrir la boîte de Pandore. Je sais que le terme a été dévoyé ensuite, mais chaque accro que l'on donne dans une règle comme celle-là entraîne des conséquences.
Alors, pour les têtes maoris, effectivement, moi, ça ne me concerne moins puisque ce ne sont pas des œuvres d'art et que personnellement, ça me touche moins. Mais il est vrai que le problème, c'est que ça fait un précédent, en fait, ce que vous dites.
Tout à fait. Alors, ce ne sont pas des œuvres d'art, mais ça reste des biens culturels. Il ne s'agit pas de têtes parce que... Le problème de ces sujets, c'est qu'on confond tout. On va confondre, par exemple, les têtes d'Alger, qui sont des prises de guerre, à mon sens, honteuses et d'un autre temps, mais qui appartiennent à l'histoire. Les têtes maoris, ce sont des biens culturels. Ce sont des têtes qui ont été tatouées, souvent post-mortem, dans un but de vente. Mais à l'origine, c'est le moko qui est repris et le chef adverse était décapité pour être exposé. Tout ce qui a pu être raconté pour justifier une loi d'exception était faux. Et encore une fois, sous réserve de ce que diront les historiens, mais c'était faux. Quand on a la base était de dire qu'on va donner à ces têtes une sépulture digne de leur culture, dans leur culture, il n'y avait pas de sépulture. D'ailleurs, elles sont retournées en Nouvelle-Zélande où elles n'ont pas eu de sépulture, elles sont au musée.
Julien Volpert, donc vous vouliez intervenir et je voudrais compléter votre intervention par une question. On parlait de morale. Mais il me semble en tout cas, alors restreignons l'art africain pour le moment à l'art de l'ancien Dahomey, l'art du Bénin, puisque c'est de celui-ci dont il est question actuellement. Est-ce que la morale a quelque chose à faire dans cette histoire, alors que si j'ai bien compris, les rois du Dahomey pratiquaient l'esclavage, donc la repentance, on parle beaucoup de repentance dans la morale, bah, la repentance elle peut être aussi bien s'exprimer par les rois du Dahomey, et que ces œuvres ont été effectivement emportées, mais est-ce qu'elles ont toutes été pillées? La morale, qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette histoire?
En ce qui concerne les pièces du Dahomey, effectivement, c'est pas un cas d'école, mais c'était un exemple qui était particulièrement percutant pour, on va dire, pour le public français, au niveau de la radio, au niveau de la presse, au niveau de l'opinion publique, c'était quelque chose d'assez marquant. C'était un cas, on est au début des années 1890, ou 1892 pour être plus précis, avec la colonne de l'officier Dodds, Alfred Amédée Dodds, qui donc va livrer une campagne militaire contre le royaume d'Abomey et son souverain, donc Béhanzin. Et effectivement, de cette campagne militaire sont sortis un certain nombre d'objets, excusez-moi, dont un assez grand nombre se trouve au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et d'autres aussi aux mains dans des collections privées, par exemple. Mais on voit bien, là, pour cette histoire-là, à quel point la morale peut jouer. Et c'est très très simple, il n'y a même pas besoin d'avoir d'arguments ethnographiques ou historiques. Il suffit juste de dire, imaginez ces gens, ce roi Béhanzin qui a été spolié, ce roi Béhanzin, tout a été détruit, là la France est installée en vainqueur, et en vainqueur a humilié le vaincu en récupérant toutes ces régalias, tous ces éléments de pouvoir. On est dans quelque chose qui, à mon sens, relève d'une dérive des post-colonial studies qui vise à présenter l'Européen sempiternellement comme le bourreau et que ce soit un Asiatique ou l'Africain ou l'Océanien, que sais-je encore, ou l'Amérindien, comme une éternelle victime. Or, dans les rapports humains, dans la pensée humaine, on sait bien que les choses sont bien plus complexes que ça. Et si vous me permettez juste un exemple d'ailleurs à ce sujet, on a l'impression des fois que c'est actuellement, en tout cas pour l'histoire du Bénin, donc du royaume de l'ancien royaume d'Abomey, c'est véritablement moins un procès à charge contre l'idée de pillage militaire que compte qu'un procès à charge contre les pillages militaires fait par des Européens contre des Africains. La preuve, c'est très amusant de voir que on ne parle jamais, puisque, a priori, certains des plus grands des pourfendeurs de l'inhabilité des coalitions françaises ne citent pas, peut-être par méconnaissance ou par mauvaise foi, ça peut être un mélange des genres, les cas, par exemple, du conquête du royaume d'Abomey. Le royaume d'Abomey était un empire. En tant qu'empire, l'extension d'un empire passe par des conquêtes militaires. Et on attaque des voisins, on attaque des cités voisines. Je vais prendre un exemple qui est assez simple, en fait. Par exemple, il y a une ville qui est toujours au Bénin, qui s'appelle la ville de Kétou. Cette ville de Kétou, on est en 1882, elle va se faire attaquer par les armées du roi Glélé, qui va profiter d'une absence de l'armée de Kétou dans la ville, pour attaquer la ville. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La ville va être pillée, le roi de la ville va être décapité, et son crâne va être monté en chasse-mouche. Puisqu'on aime les détails un peu croustillants qu'on met pour les armées françaises, là on est sur quelque chose de pas non plus spécialement pacifique, à bien des égards. Il faut savoir même d'ailleurs pour cette question-là qu'il y avait une famille spécialisée dans ce domaine-là à la cour des rois d'Abomey, qui était la famille Metaconto, dont la spécialité était la préparation des crânes d'ennemis pour orner un trône ou préparer pour un chasse-mouche. Donc on est sur des choses assez fortes. Et par exemple, là c'était quelques années plus tard, en 1886, encore l'armée de ce même roi Glélé, donc le père de Béhanzin, va encore attaquer la ville de Kétou, qui va résister cette fois-ci pendant 2-3 mois. Mais malgré tout, les troupes d'Abomey vont réussir à rentrer dans la ville. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire ville rasée, ça veut dire qu'il y avait deux grands battants de portes sculptées qui étaient des portes, on va dire, des portes sacrées de la ville de Kétou. Les troupes d'Abomey vont les faire porter à dos d'esclaves en direction d'Abomey, c'est-à-dire que les portes de Kétou vont être pillées. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est que l'une de ces portes se trouve toujours au musée historique d'Abomey et fait l'objet d'une réclame de la part des descendants des souverains de Kétou qui demandent de récupérer cette porte. Donc, des fois, c'est des détails historiques que j'aimerais voir placés, mais curieusement, que ce soit dans des articles dans Le Monde, dans Libération ou que sais-je encore, ce genre de détails n'est jamais mentionné.
C'est toujours à sens unique, en fait.
C'est à sens unique. Ouais. C'est très manichéen. Hein.
Pour rebondir sur ce que dit M. Volper, sur la campagne de Dodds, parce que bon, toute cette question de restitution a été lancée par la demande du président Talon, président du Bénin, en 2016, refusée, et c'est actuellement encore, c'est le Bénin qui réclame. On n'a pas d'autres demandes formalisées que chez Free, je crois, mais la vraie demande d'un État, c'est celle du Bénin. Sur la question donc de ces régalias qui se trouvent maintenant au Quai Branly, des Boccio hein, de mémoire, hein, soit de contrôle.
Notamment, hein. Oui, notamment les plus emblématiques sont ces trois grandes sculptures en position un peu en contrapposto. Ce sont les œuvres les plus emblématiques, effectivement.
Eh bien, dans l'imagerie qu'on a voulu essayer, l'imaginaire qu'on a voulu essayer de travailler chez le français, on imagine que la colonne de Dodds, à sa tête, vous avez... Je vais dire un mâle blanc pour reprendre un autre terme du président Macron à un autre moment. Une colonne infernale, un royaume pacifique, une tragédie et on emporte des biens qui sont aujourd'hui au musée. Ce n'est pas ça. La colonne Dodds, d'abord, Dodds, on n'en tire aucune conséquence, mais c'est un métis. Ce n'est pas un blanc roux à grande moustache comme on pourrait le voir dans un film sur Tarzan. Ça n'est pas du tout ça. Il arrive au royaume du Dahomey. Il commence par libérer, et sous votre contrôle, messieurs, hein, les esclaves Yoruba. Ce sont les esclaves Yoruba qui sont détenus par le Dahomey, qui mettent le Dahomey à feu et à sang. Le roi du Dahomey met le feu à son palais. Ce sont les Français qui éteignent l'incendie du palais et qui emportent ce qu'il reste. Et pas parmi ce qui est aujourd'hui au musée, alors ça n'est pas la même campagne, mais il y a notamment le dieu Gou, et je me souvenais que vous l'aviez évoqué dans un petit débat que nous avions fait, qui est là d'une autre campagne, et ce dieu Gou venait d'une autre campagne, celle faite par le roi. Je vous laisse...
En fait, oui, par rapport à cette question de l'image du dieu Gou, donc qui est toujours détenu au pavillon des sessions au Louvre.
Donc ça veut dire que détenu, le terme est peut-être...
Oui, le terme est malheureux, mais c'est vrai qu'effectivement. Mais l'histoire de cette figure de fer est très intéressante aussi. Effectivement, elle est récupérée par les troupes françaises, notamment par le capitaine Fonsagrive, qu'il va la récupérer dans une autre ville qui est près de la côte, qui est la ville de Ouidah. D'ailleurs, juste entre parenthèses, Ouidah, c'est une ville assez intéressante. au XVIIIe siècle, c'est une ville qui ne relevait pas du royaume d'Abomey, mais qui va être finalement ville prise par le royaume, je crois, sous le règne d'Agadja, si je ne dis pas de bêtises. Et cette ville de Ouidah, il faut savoir que même avant la conquête du Dahomey, donc on est dans les années 1860, cette ville va être ravagée par un incendie. Et par des traités d'alliance qu'il y a à l'époque entre les Français et le royaume d'Abomey, donc on est sous le règne du roi Glélé, les Français, c'est les Français qui vont reconstruire Ouidah. Ça montre bien que ces histoires, même de relations politiques, militaires, entre la France, par exemple, et le royaume d'Abomey, puisqu'on en parle, sont extrêmement complexes. Et cette statue du dieu Gou, donc, qui est récupérée, effectivement, comme le souligne Maître Deby, c'est une pièce qui avait fait partie d'un butin de guerre pris dans la ville de Doumé, donc à l'ouest d'Abomey. Et on ne sait pas trop. Dans la plupart, d'après la tradition orale, on dit que c'est sous le règne de Glélé qu'elle a été ramenée. Mais certaines recherches assez récentes tendraient à dire que c'est plutôt vers la fin du règne de son père. Enfin, quoi qu'il en soit, la pièce est liée là aussi à un pillage, à une prise de guerre dahoméenne avant d'être une prise de guerre française.
Deux mots et ensuite je parlerai.
Deux mots tout de même pour revenir à cette campagne d'Abomey, puisqu'on veut faire un procès à l'histoire, c'est cela qu'on fait aujourd'hui. Imaginons que nous sommes spectateurs de cette prise d'Abomey par Dodds. Spectateurs et juges, vous êtes pour qui vous ? Vous êtes pour cette colonne Dodds, colonne infernale, ça ne pose pas de problème, qui va attaquer, c'est pour eux que vous êtes ? Vous êtes pour ces pauvres esclaves, mais qui une fois libérés, mettent les lieux à feu et à sang ? Vous êtes pour ce roi négrier qui a mis ces gens en esclavage ? Qui sont les gentils ? N'y a-t-il pas que des méchants ? Pourquoi faire éternellement un procès à l'histoire ?
Tout à fait. Alors, je me tourne vers Pierre-Yves Thiéry. Selon ce procès à l'histoire, cette repentance, cette morale, est-ce qu'elle s'applique aux demandes ou est-ce que ceux qui demandent la restitution des œuvres à la France, donc des œuvres précisez-nous d'ailleurs deux, trois œuvres qui sont réclamées, dans quelles conditions elles ont été envoyées, donc effectivement, en France ? Et où est la morale dans tout ça ?
Mais je pense que le problème ne se pose pas tant sur le terrain de la morale, à mon avis. Moi, j'aime bien citer, pour résumer toutes ces questions, c'est un arrêt du tribunal administratif de Paris en 2009, concernant justement la question des manuscrits coréens dont on a parlé. En substance, cet arrêt dit, jusqu'au XXe siècle, le pillage des œuvres d'art n'était pas contraire au droit international.
Tout à fait.
Donc, je veux dire, par rapport au droit, je crois qu'il faut cesser, parce que bon, moi j'ai essayé de démontrer dans mon rapport fait pour ma ministre de tutelle que sur le plan juridique, on ne pouvait pas contester la propriété de la France sur les œuvres qui ont été, oui certes, elles ont été spoliées à un moment bien précis, mais tout ça a été validé par des traités par la suite, notamment le fameux traité de Campo Formio que tout le monde oublie, mais qui officialise le transfert de souveraineté sur les États belgiques de l'époque, de l'Autriche à la France. Et à ce moment-là, les lois de la République française s'appliquent aussi sur les territoires de la Belgique, en ce compris toutes les lois de nationalisation des biens religieux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais je dis c'est un fait. On le redit dans ces questions-là, on ne peut pas réécrire l'histoire. Alors maintenant, effectivement, il y a des demandes spécifiques. Alors, vous savez, les demandes en Belgique, il n'y en a pas une qui est plus fondée que l'autre. C'est simplement dû au dynamisme de tel ou tel homme politique. Par exemple, il y a une demande très forte concernant un Rubens qui ornait la cathédrale de Tournai. Pourquoi plus ce tableau-là qu'un des dizaines d'autres tableaux de Rubens qui sont conservés dans les musées français ? Moi, j'ai une plus grande sensibilité, une demande là qui vient d'Anvers, qui est celle d'un tableau de Rubens, un grand tableau qui est au musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est le Christ foudroyant le monde, qui est protégé par Saint François et Saint Dominique, qui vient du maître-autel de l'église Saint-Paul à Anvers. Et on a encore ce magnifique maître-autel baroque, c'est parfaitement conservé, avec un très mauvais tableau du 19e siècle en son centre, qui remplace le Rubens qui est parti. Là, je dirais que sur le plan de l'histoire de l'art, la remise en place du tableau apporterait une vraie plus-value de reconstitution. Mais derrière tout cela, il y a aussi une chose dont nous n'avons pas encore parlé. C'est le principe même des musées. Les musées sont, comme le disent les conservateurs eux-mêmes, sont des machines à décontextualiser. Et on est pour le moment dans une période où on est en train de faire marche arrière. Donc on revient sur tout ce qui a été créé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et on parle sans arrêt de recontextualisation des œuvres d'art. Donc, sans arrêt, il faudrait que les œuvres retournent dans leur lieu d'origine quand ils existent encore. Mais on dépouille nos musées. Hein. Et je ne parle pas seulement de la France. Il y a un problème de philosophie aussi par rapport à la conservation et la présentation du patrimoine.
Alors, Julien Volper, je me tourne vers vous. En Afrique, est-ce qu'il y a, assez peu de musées ? Est-ce qu'il y avait une conscience patrimoniale de ces objets ? Est-ce que ces objets étaient considérés comme des œuvres d'art ? Et la question qu'on pose souvent, est-ce que ces œuvres d'art ont été transformées en œuvres d'art par les Européens ? Est-ce que le musée est une notion européenne ou une notion africaine ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne réclame pas, au nom d'une notion créée par les Européens, un retour d'œuvres dans des pays où ce n'était pas la tradition d'avoir des musées ? Est-ce que vous comprenez la question ?
Tout à fait.
C'est un peu complexe, mais...
Elle est complexe, mais à mon sens, ça c'est mon point de vue personnel sur la question, la notion même de musée, c'est-à-dire de garder une place pour ce qui ne sert plus, ce qui appartient à une époque donnée ou à un lieu donné, donc, c'est quelque chose qui, pour moi, dans sa conception même de musée, quelque chose d'occidental. Ça ne veut pas dire que c'est resté en Occident par la suite, mais c'est quelque chose, à la base, qui est très particulier à l'Occident. C'est des choses qui m'ont valu de me faire taper sur les doigts quand on dit ça, parce que c'est tout de suite un point sur la civilisation occidentale et autres. Mais c'est vrai, je le pense véritablement.
On n'est pas là, effectivement, pour faire du politiquement correct.
Non,
on est tous d'accord que c'est pas, la colonisation, c'est pas bien. On n'est pas là pour défendre la colonisation. On n'est pas là pour défendre les pillages. On est là pour faire un état des lieux logique, moral. Pourquoi pas ? Parce qu'on dit que la morale peut exister. Mais là, la morale n'a, à mon avis, pas grand-chose à faire dans cette affaire. Il y a des lois, mais on n'est pas là pour dire que la colonisation c'est bien. La parole est libre ici. Hein.
Mais en parlant justement de l'état des lieux pour les musées, restons encore une fois donc sur le Bénin. Donc là, ce qui a été.
Et d'un exemple intéressant, puisque
c'est notre sujet d'actualité.
Mais ça va s'étendre.
Ça va s'étendre bien sûr. La Belgique concernée aussi avec le Congo, dans d'autres cas. Mais par exemple, le musée historique d'Abomey, c'est quelque chose. C'est une institution qui n'est pas créé à proprement parler à l'indépendance. C'est quelque chose qui est un héritage de l'époque coloniale. Si je me souviens plus, ça a été créé, je crois, dans les années 40. On peut dire pareil aussi sur ce qui forme la base de ce qu'on appelle le musée de Dakar, donc le musée de l'IFAN, de l'Institut français d'Afrique noire, qui est devenu après l'Institut fondamental. Et il y a beaucoup de cas de figure où les traces de musées sont des musées qui sont... Après, ils ont évolué, mais qui sont hérités quand même de l'époque coloniale, où à l'époque coloniale, il y a eu des structures muséales qui sont implantées dans différents pays africains.
Que sont devenus ces musées ? Et par exemple, aussi une question qui est intéressante, c'est qu'il y a, il y a eu des restitutions par votre musée, au Zaïre, si je ne me trompe pas. Que sont devenues les œuvres restituées ?
Alors,
pourquoi ont-elles été restituées d'abord ? Parce que finalement, on dit que ce n'est pas possible.
Elles n'ont pas été restituées. Le terme employé était différent.
D'accord.
C'était un terme de transfert.
En
Belgique, on a fait attention au terme.
Voilà. En fait, par ces termes, comme dit Maître Deby, effectivement, on nous parle souvent des restitutions de la Belgique au Congo. En fait, on partirait du postulat que ces objets ont été acquis légalement.
Voilà.
Ce qui n'est pas le cas. Ça s'est fait, en fait, sous la présidence donc, de Mobutu. À ce moment-là, il y a eu, c'était entre 76 et 82, il y a eu une demande de Mobutu en disant il y a des objets, la Belgique doit rendre des objets. On était dans une optique assez aussi de réclamation, auquel la Belgique et le musée de Tervuren a répondu en effectuant un transfert de collection d'à peu près 110 objets, 114.
Transfert par rapport, alors qu'est-ce que ça veut dire transfert ?
C'est-à-dire que simplement, on ne les a jamais déclassés. Ils relèvent toujours des collections.
Comme les manuscrits coréens, en fait.
Ils relèvent toujours des collections du musée de Tervuren. Ils n'ont jamais été désinscrits en soi. Et c'est allé de pair, donc il y a eu un retour comme ça de ce transfert d'une centaine d'objets. Mais ça allait de pair avec une formation au Congo de ceux qui allaient donner les conservateurs, les collecteurs pour ce qui allait devenir l'Institut des musées nationaux zaïrois, qui sont maintenant les instituts des musées nationaux congolais.
Je vous interromps tout de suite. Tout s'est retrouvé sur le marché, vous allez en parler. Mais tout s'est retrouvé sur le marché quelques jours plus tard. Il ne reste quasi rien aujourd'hui au Congo.
Oui, tout à fait. Et c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre cas aussi d'objets qui sont partis au Congo, qui ne sont pas revenus. C'est une histoire qui est beaucoup moins connue. C'est-à-dire que là, on est à l'époque coloniale, on est en 56. Et en 56, il y avait donc au Congo ce qu'on appelle l'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale, l'IRSAC. Et l'IRSAC, un des centres de l'IRSAC, avait demandé au musée de Tervuren si c'était possible d'envoyer en dépôt, pour le petit musée de l'IRSAC, une quinzaine de pièces qui venaient de deux cultures qui s'appellent les Bembe et les Lega. Après l'indépendance, les objets, ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus dans les collections du musée. Par contre, effectivement, comme dit Maître de Bille, là encore, on est sur un cas de figure où les objets, de temps en temps, on les voit passer sur le marché de l'art.
Est-ce qu'il y a une politique d'acquisition? Parce que finalement, je me tournerai aussi après vers Pierre-Yves Kéris, qui a une théorie là-dessus, et je pense qu'il a raison. Le Bénin réclame des objets qui viennent de son territoire. Les autres pays africains, quand on parle de restitution, on parle de restitution, par exemple, des bronzes du Nigeria au Nigeria. Donc, c'est toujours les objets locaux. On veut les objets produits chez nous. Alors, la vraie question, une question aussi que avait évoqué en préparant cette émission Maître Levy, c'est de dire est-ce que on est propriétaire, on est intéressé, est-ce que les objets qui sont produits à un endroit appartiennent
exclusivement
aux gens
au
de cet endroit
de production.
Au lieu de production. Deuxièmement, s'il y a une conscience et si on veut faire des musées en Afrique, est-ce qu'il y a eu depuis 20, 30 ans, 40 ans une politique de création de musées et d'acquisition d'œuvres d'art, pas uniquement des œuvres d'art locales? Bref, est-ce que cette conscience patrimoniale, cette conscience des musées existe déjà en Afrique ou pas? Enfin, quand je dis en Afrique, c'est trop large. Nous ne faisons pas comme le président Macron, mais par exemple au Bénin.
Au Bénin, à ma connaissance, non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont par rapport peut-être à l'art, qui s'intéressent maintenant des fondations, mais des fondations privées qui font de l'art contemporain, qui on le rend dans un autre domaine. Mais à ma connaissance, non. Il y a des musées qui traitent sur la RECA. Il y a la petite fondation de la RECA, qui est une fondation privée, d'ailleurs financée par des Français. Ça, c'est aussi, ça n'a même pas été dit dans un reportage sur France 3 qui présentait ça comme une création purement béninoise. C'était assez honteux.
Oui, une victoire des restitutions, oui. Alors même que ce musée, le petit musée de la Récade, est un musée qui a été fondé par des Français, par des fonds privés, d'ailleurs de marchands. On oublie souvent l'impact des marchands, d'ailleurs, sur la conservation.
Mais est-ce qu'il y a des cas de musées qui, par exemple, d'un pays africain, qui, dans ses collections, possède des objets qui viennent d'autres pays, d'autres cultures africaines? À mon sens, va y avoir le musée des civilisations noires de Dakar, mais qui en fait repose en partie ses collections sur ce qui reste des collections du musée de l'Ifan. Mais le musée de l'Ifan était fait de telle manière, peut-être aussi parce que c'est l'histoire particulière du Sénégal aussi qui fait ça, les collections de l'Ifan, il y avait des objets de Côte d'Ivoire, il y avait des objets de Guinée, donc effectivement là on est dans un musée qui a des choses qui ne sont pas que des objets sénégalais. À ma connaissance, on peut citer aussi le cas du musée comme exemple de l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, qui a aussi, par exemple, des pièces congolaises. Mais ce sont des cas quand même très, très spécifiques.
Alors, et donc, oui, pardon, Pierre Gris.
Oui, mais on est ici dans la question sous-jacente du nationalisme qui préside justement à la constitution de toutes ces collections. Et si vous le permettez, et en revenant à cette période révolutionnaire et impériale en France, dans les liens entre la Belgique et la France, on le sent très fort aussi. On sait que justement, grâce à toutes ces spoliations à travers l'Europe, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie principalement et Espagne, le Louvre bientôt coule sous les œuvres d'art et Chaptal crée les fameux 15 musées de province en 1800 où on répartit toute une série d'œuvres qui ont été regroupées au Louvre. Parmi ces 15 musées, il y a le musée de Bruxelles. Et le conservateur du musée de Bruxelles de l'époque, qu'est-ce qui l'intéressait? C'était pas justement la politique universaliste qui était celle de l'autorité française, qui était l'idée de présenter à la population et surtout aux jeunes artistes des chefs-d'œuvre de toutes les écoles pour les aider à se former. Pas du tout. On est déjà dans une revendication nationaliste. Ce que le conservateur Boscard du musée de Bruxelles veut à cette époque, c'est créer un musée d'art flamand avec les chefs-d'œuvre de la peinture baroque flamande que l'on veut récupérer. Or, la France dit non. Et on en voit notamment des chefs-d'œuvre de la peinture italienne et espagnole. Où sont-ils restés ces tableaux? Eh bien, jusqu'à quasiment la fin du XXe siècle, très souvent, ils sont restés en réserve. Parce qu'ils ne participaient pas à cette vision nationaliste de l'art local, l'art belge, on dit souvent dit l'art flamand quand on parle des périodes anciennes. Pourquoi? Alors, ma théorie, c'est qu'effectivement, dans les petits pays à forte tradition culturelle, on a une tendance à un repli identitaire. Vous savez, la Belgique, elle était, je crois, la quatrième puissance économique au monde au XIXe siècle. Quatrième puissance, un tout petit pays. On avait l'occasion de créer un beau grand musée de peinture, comme on l'a fait dans d'autres pays. Un musée international avec des peintures flamandes, bien sûr, mais aussi des peintures françaises, des peintures italiennes. Vous savez, Dublin l'a fait. Hein. Dublin, c'était l'Irlande, n'était pas la puissance économique de la Belgique. Eh bien non, on a refusé, repli identitaire, on fait un musée uniquement sur l'art belge. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est l'Afrique qui vient, je dirais, 100 ans, 150 ans plus tard, avec ces mêmes conceptions de repli, c'est les œuvres de chez nous doivent être montrées chez nous.
Alors,
vous posiez la question finalement de l'intérêt, au-delà des demandes officielles de restitution, l'intérêt pour le musée que l'on pourrait trouver en Afrique. Et l'intérêt également pour ces œuvres qu'on appelle aujourd'hui classiques africaines. D'abord, et encore une fois sous le contrôle des historiens, mais le musée est un phénomène occidental, à de rares exceptions. C'est principalement occidental. Les grands musées africains, ou ce qui en reste, pour la totalité, étaient créés par les anciennes puissances coloniales. La plupart du temps, il n'en reste que pas grand-chose. On a cité l'IFAN, institut français. Il y avait, je crois, 10 000 objets. Je ne suis pas certain qu'il en reste une centaine à vérifier sur place, mais il ne reste pas grand-chose. Quant à l'intérêt du marché, certains seraient plus fondés que moi à en parler, mais à ma connaissance, de grands collectionneurs africains d'objets classiques d'art africain, il n'y en a pas. Ou très, 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 très peu. Et si on parle, mais Julien Volper en parlera mieux que moi, mais si on parle principalement de cette question du Bénin, vous avez donc ces Regalia, ces Boccio, ils ne sont pas tous en collection publique. En collection privée, ils existent, et même en vente. Et je crois que M. Volper en parlera mieux que moi.
En fait, comme dit Maître Deby, effectivement, cette question du marché de l'art, il faut savoir pour les pièces d'Oméen, est-ce que beaucoup de pièces d'Oméen sont hors du Bénin ? Oui.
Alors, oui, c'est ça. Je complète parce que ma question suivante, vous dire, un des arguments, c'est dire que 95% de l'art, par exemple, du Bénin est hors du Bénin, ou 95% de l'art d'Afrique est hors d'Afrique. Oui, premièrement, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, ça pose quand même une question, effectivement, de ne pas du tout avoir de représentation dans ces pays-là. Mais est-ce que c'est vrai ?
Ce chiffre de 95%, c'est pareil, c'est quelque chose qui a avancé, à mon avis, pardonnez ma expression un peu triviale, mais un peu au pifomètre, quelque chose qui vise, là encore, à marquer les esprits, comme les colonnes infernales de Dodds marquent les esprits. L'idée d'un continent qui a perdu toute sa culture matérielle, ça marque les esprits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais toujours une distinction entre des productions artistiques, je parle d'objets culturels qui sont encore produits actuellement, et des objets, effectivement, qui ne sont plus produits. Il faut savoir qu'effectivement, il y a dans certains pays des mascarades, par exemple, qui ont toujours cours. Est-ce que ces objets qui existent toujours, donc qui sont créés, font l'objet de campagnes de collecte de la part de musées africains ? À ma connaissance, non. Donc, on peut déjà se poser un tout petit peu une question à ce sujet-là. Pour la question des objets, il faut savoir aussi qu'il y a des objets qui finalement n'aurait pas été amené à être conservé. Je m'explique pour un exemple très simple qui me ramène au Congo. Au Congo, il y a différentes cultures qui s'appellent les Yaka et les Soukou, qui avaient des mascarades qui se tenaient après des cérémonies d'initiation masculine qu'on appelle le Mukanda. Ces masques produits pour le Mukanda étaient des masques quasiment, à quelques exceptions, sauf si ça est bien plus au public, presque à usage unique, c'est-à-dire qu'après le Mukanda, ces objets étaient détruits. Le fait qu'on en ait énormément intervenu, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des missionnaires, il y avait notamment des jésuites, mais d'autres administrateurs qui, à la fin du Mukanda, finalement rachetaient ce genre d'objet, ce qui intéressait d'ailleurs plutôt les gens, puisque ça permettait aussi de payer une partie d'initiation. Mais donc, il faut garder à l'esprit qu'il y a des objets qui n'avaient même pas vocation à durer. Et ça, c'est quelque chose... Quant à la question, juste deux minutes, sur la question du Dahomey, donc du Bénin, est-ce qu'il y a des pièces hors du musée du Quai Branly? Oui. Comme le dit Maître Deby, est-ce qu'il y en a en maison de vente qui sont passées? Oui. Il y en a une, notamment une pièce. Et depuis, je ne parle pas de rogaton, je parle de pièces importantes. Il y en a une qui a été vendue, je crois, vers 2011, d'un lion avec des plaques d'argent dessus, qui forme un duo avec un exemplaire qui est conservé à la Fondation d'Appert. Pièce importante, qui est issue d'une grande réalisation d'un maître sculpteur qui s'appelait Otton Gifon. Donc, la pièce est partie. Bon, elle a été vendue, je crois, pour plus d'un million d'euros. On va dire, c'est une somme. Pour un particulier, au niveau d'un État, on peut déjà y réfléchir. Mais toutes les pièces du Dahomey ne sont pas parties à ces prix-là. Et puisqu'on parlait de ces grands boccio, de ces grandes statues en contrapposto, il faut savoir que c'était en 1983, l'Aga Khan vend sa collection. L'Aga Khan avait des collections d'art africain. Et parmi ces cette collection, il y avait des pièces du Dahomey, et notamment une, il y avait un très grand Boccio qu'on rattache au souverain, dont l'iconographie se rattacherait au souverain Ghezo, donc le père de Glélé, le grand-père de Béanzin, et qu'on rattache aussi, et là c'est intéressant, d'après ce qu'on dit Sotheby's, qui vend la pièce, à la campagne de Dodds. Donc on est dans le cas de figure d'une pièce qui était accessible sur le marché, qui est liée à cette campagne, à cette campagne militaire. Curieusement, on se focalise actuellement sur les pièces de collection nationale. Et cette pièce, le plus drôle dessus, c'est qu'elle n'est pas passée une fois. On dit, ah oui, ben, elle est passée, c'est difficile de la revoir. En fait, la pièce est passée deux fois. Elle est passée une fois chez Christie's après, en 93, et une fois chez Sotheby's en 99. Et pour des prix, on pourrait dire, est-ce que c'est le prix de 1 million d'euros? Non. Quand elle n'est pas chez Christie's, elle est vendue précisément pour 6 325 $. Quand elle est estimée chez Sotheby's en 99, elle est estimée entre 7 000 et 9 000 $. On n'est pas sur des grosses sommes. Pour un pays dont le président a une fortune qui s'estime, je parle du président Talon, s'estime fortune personnelle de 300-400 millions d'euros, on peut se dire que, effectivement, qu'est-ce qui interdirait un président d'essayer de dire on va d'abord essayer de retrouver cette pièce-là et on va l'acheter à la personne qui le possède. On veut la racheter. On va la payer deux fois, trois fois le prix ou quatre fois le prix. Je veux dire, même payant quatre fois le prix une pièce à 9 000 $, on n'est pas ça n'a pas saigné la caisse. Ni la caisse du président, ni la caisse de l'État. Mais ces choses-là ne se font pas. Ça ne se fait pas. Et si vous me permettez une dernière chose, en 2014, encore des choses beaucoup plus récentes, à la BRAFA, donc le Bruxelles Art Fair, qui se tient donc à Bruxelles, comme son nom l'indique, il y avait un galeriste, Serge Schoffel, qui a proposé à vendre un ensemble vaudoune, donc des objets liés à la religion traditionnelle fond, enfin la religion du Bénin. Il y avait des pièces d'assez belle qualité, et des pièces qui ont été collectées et acquises légalement, j'insiste sur ce terme, légalement, entre les années 70 et 2000. Donc il y a encore du matériel qui existe, même sur place, c'est pas la même qualité que les pièces très anciennes, mais ce sont des objets aussi qui sont sortis légalement du Bénin. Et comme je le disais, effectivement, de la part, j'insiste bien, de l'État béninois, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une politique d'acquisition, et pour des prix, comme je vous disais, qui ne sont pas forcément excessifs. On pourrait dire, effectivement, à ça on pourrait répondre, mais si, il y en a quand même eu, il y a le fameux musée de la Récade, ou la Fondation Zinsou, mais j'insiste sur le fait que, par exemple, la Fondation Zinsou a acheté un trône qu'on appelle le trône dit de Béanzin, qui a été acheté en 2004 chez Sotheby's à peu près pour 140 000 euros. Mais la Fondation Zinsou est une fondation privée. C'est une fondation privée, financée par Lionel Zinsou, maître Duby me corrigera si en grande partie, financée en grande partie par Lionel Zinsou, et tenue par sa fille. C'est une affaire familiale. Et à tel point que les deux, des fois, ne sont pas forcément liés, il faut savoir une chose, c'est que, parlant de ce trône, on est en 2016, hein, donc les histoires de restitution commençaient à avoir le jour. La directrice donc, de la Fondation Zinsou, Marie-Cécile Zinsou, donne une interview dans le journal béninois qui s'appelle La Nouvelle Tribune. Et elle parle de ce trône, acheté donc par la Fondation. Et où elle parle aussi de ce trône et du musée et des musées béninois. Et elle dit la chose suivante. En voyant l'état des musées aujourd'hui, il n'est pas possible de l'exposer dans un musée national. Il va être dégradé dangereusement comme les autres œuvres. L'idée n'est pas d'aller chercher des objets, de les maintenir, de soutenir le patrimoine, de les documenter, tout ça pour après les mettre dans les thermites, dans une salle où il n'y a pas de fenêtre, pas de contrôle climat, aucune sécurité. En sachant quand même que parmi les gens qui militent le plus pour les restitutions d'objets se trouve, sauf erreur de ma part, la Fondation Zinsou. C'est quand même très paradoxal. Ça veut dire qu'on restitue vers quoi, si ça se fait? On déclasse des collections publiques pour que ça soit stocké dans des collections privées ou des fondations privées. C'est très spécieux. Ça n'a pas été dit, mais on peut se poser la question des musées actuels.
On est dans la question de principe. Je pense que c'est ça qui est sous-jacent. Et moi, je vais plus loin. Alors, je suis à un micro en France et j'assume aussi ce que je dis. Je pense que pour beaucoup de pays, il y a cette relation avec la France en tant que puissance dominante. J'aime toujours citer un exemple concernant toujours nos spoliations révolutionnaires. Il y a, d'après le comptage que nous terminons à l'IRPA, puisque notre ministre de tutelle nous a chargé de faire un inventaire des œuvres qui ont été saisies par les Français à l'époque révolutionnaire. Donc, on termine cet inventaire dans quelques jours en clôturant le 30 et le 31 mai par un colloque international sur ces questions. Nous arrivons à environ 180 tableaux qui ont été spoliés. On oublie que quelques années avant l'invasion des pays belgiques et liégeois par les troupes révolutionnaires françaises, les empereurs d'Autriche ont confisqué dans les couvents supprimés plus de 20 000 tableaux.
qui ont été vendues ou qu'on s'est réservées pour le musée de Vienne. Personne ne réclame à l'Autriche la restitution des chefs-d'œuvre de Rubens qui sont au Kunsthistorisches Museum de Vienne, alors que c'est exactement le même phénomène que celui qu'on rencontre quelques années plus tard avec les Français. Et donc, il y a une dimension psychologique. Alors, je ne vais pas faire non plus de la psychologie de bazar, mais il y a un problème plus spécifique là. Pourquoi est-ce qu'on fait ces différences? Et quand j'entends Julien Volpert, bah, j'ai un peu l'impression, c'est oui, on réclame pour le principe de réclamer.
Bernard Deby.
Oui, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, pour résumer peut-être ce qui a été dit par Julien Volpert, de grands objets d'art classique africain sont sur le marché. Il y a de grandes ventes qui vont arriver maintenant. Et ces objets, sauf erreur de ma part, ne sont jamais acquises par des musées africains, par des États africains. On préfère aller dans cette logique de demander sur fond de repentance à des pays anciennement coloniaux des restitutions avec d'ailleurs des moyens financiers accompagnants pour conserver alors en Afrique. Ça, c'est le premier point. Il y aurait des choses à faire. Hein. On parle de parce que dans le Bénin, on entend souvent parler aussi des plaques béninoises de Bénin City. Ça n'est pas au Bénin aujourd'hui, mais M. Volpert, c'est au Nigeria.
Au Nigeria.
Et donc, là aussi, il y a eu une expédition. Elle était anglaise. C'était une expédition, pour le coup, privée. Et ces plaques en bronze du Bénin ont été disséminées. Elles sont partout. Il y en a tout le temps à vendre. Ce serait assez aisé pour les États de les racheter et de faire un musée. Ça, c'est une chose. Pour réagir aussi sur ce qu'on a dit sur le côté problème avec la France, moi, ce que je remarque, c'est que c'est la France qui s'auto-flagelle. Le président...
Un sport national.
Oui, c'est un sport national, mais avec des conséquences aujourd'hui qui peuvent être extrêmement importantes. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra ensuite revenir en arrière. Quand le candidat Macron déclare que la colonisation est un crime contre l'humanité, il fait de la période coloniale une période infractionnelle, pour refaire un petit peu de droit. Dès lors, il ne s'agit pas ensuite de dire « je vais créer des conditions pour vous restituer à titre temporaire, ce qui ne veut rien dire, ou définitivement ce qui va se passer ». Il s'agit de dire « voilà, je déclare, moi, président de la France, que la période coloniale était infractionnelle, crime contre l'humanité. Ce n'est pas le cas, ça ne rentre pas dans les cases, mais c'est ce qu'il a dit. Dès lors, et c'est là où je ne comprends pas qu'on ne se rende pas compte jusqu'où on peut aller, il ne s'agira pas simplement de restituer ce qui a ou aurait été pillé, parce que le phénomène du pillage est extrêmement microscopique, mais d'à terme, de pouvoir mettre à néant tout ce qui a eu lieu pendant la colonisation. Je crois avoir lu d'ailleurs quelques lignes, où c'est M. Volpert qui m'a transmis ces quelques lignes de Bénédicte de Savoie, qui évoquait cette question. Parce que, durant la colonisation, il n'y a pas que les œuvres d'art. Les œuvres d'art, ça n'est rien. On n'a pas colonisé ces pays pour les œuvres d'art. C'est n'importe quoi. Que fera-t-on de l'impôt colonial qui a été prélevé dans cette période dite infractionnelle par le président Macron? Faut tout rendre si on rentre dans cette logique. Quand on parle de collections privées, la plupart, et croyez-moi, la plupart de ces œuvres qui sont aujourd'hui en collection, soit muséale, soit privée, ont été acquises. Oui, mais si c'est dans une période infractionnelle, le contrat peut être mis à zéro. Ce sont les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi selon le code civil français et belge d'ailleurs. Donc si on estime qu'il y a eu dol, erreur ou en l'espèce violence, eh bien ces contrats sont nuls. Et donc, si la logique du président Macron, si la logique française, c'est d'estimer qu'on doit restituer, c'est-à-dire rendre légitime propriétaire parce que ça a été pris dans une période infractionnelle, celle de la colonisation, chers amis, vous devrez tout rendre.
Alors, effectivement, cette question, période infractionnelle ou pas, c'est le président Macron qui l'a lui-même ouverte. Mais si on sort de cela en considérant, ce qui est encore le cas, que la loi à l'époque. Et qu'en plus, il y a des choses qui ont été achetées. Julien Volpert, tout à l'heure, vous avez parlé d'achat. Donc, quel est le pourcentage? Je ne sais pas si c'est faisable, on ne va pas faire de 95% ou autre chose, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres? Et peut-être qu'ensuite, Yves Bernard Deby, vous pourrez nous en dire un mot sur les cas que vous avez, enfin, sans être trop précis, peut-être, parce que vous ne pouvez pas, sur des cas généraux de ce qui se présente. Est-ce que ce sont les restitutions, elles sont sur quel type d'œuvres? Est-ce que ce sont toujours des œuvres qui ont été effectivement pillées, entre guillemets, ou pillées vraiment dans une conquête militaire, ou est-ce que ce sont des œuvres qui ont été vendues, comme par exemple celles dont vous disiez qu'elles avaient été détruites et qu'elles ont été vendues tout à fait légalement par leurs propriétaires pour qu'on les conserve?
Quand il y a ces demandes de restitution touchant à des objets africains, à mon sens, Maître Dubic en a vu quand même pas mal là-dessus, ça part toujours de même, le modus operandi est le même. On part d'un exemple qui frappe le plus. On prend un exemple, il y a une conquête militaire, si possible, si en plus un chef local qui a été décapité ou autre, plus c'est sanglant et plus on trouve un truc, entre guillemets, pardonnez-moi, dégueulasse, mieux ce sera. Et après, une fois que ça rentre au niveau, que ça commence à être développé, qu'on en fait les gorges chaudes dans l'opinion, c'est quelque chose, on va élargir. Et c'est vrai que, comme disait Maître Deby, je me souviens vaguement d'un des cours donné par Bénédicte Savoie au Collège de France, l'un des rares, le seul d'ailleurs où elle parle d'art africain, qui est l'histoire africaine au Cameroun, dans les grassfields camerounais, sujet qu'elle ne connaît pas forcément très bien, mais bon, on ne peut pas tout connaître non plus. C'est quand même, il y a une question qu'elle pose à un moment donné, c'est la question donner ces données, parce qu'on parle d'objets qui ont été donnés comme cadeau diplomatique, donner ces données, point d'interrogation. Et de suivre en disant, oui, mais est-ce que dans un cas de présence coloniale, dans un rapport de force différent, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un don dans ces cas-là? Et on voit bien comment ça peut glisser après. Comme disait Maître Duby, pour englober toute la période coloniale et même post-coloniale avec des achats qui auraient été faits auprès de marchands après les indépendances. Mais il y a très peu d'objets vraiment, en somme, là je vois par rapport aux collections de Taverne, je ne pourrais pas vous donner un pourcentage, je n'aime pas donner des pourcentages, je laisse ça à d'autres personnes qui interviennent régulièrement sur ce genre de sujet avec des pourcentages un peu fallacieux. Mais en soi, de nombre d'objets liés à cette question de pillage, de prise de guerre, on est majoritairement, en tout cas pour le Congo, dans les zones qui sont un tout petit peu avant ou un tout petit peu après la conférence de Berlin, donc avant la création de l'État indépendant du Congo, ou pendant les périodes de l'État indépendant du Congo, et pas véritablement, on oublie toujours que la période coloniale pour le Congo belge, l'ancien Congo belge, il y a eu d'abord l'État indépendant du Congo, à l'époque propriété privée de Léopold II, et puis après, ça devient colonie belge. Mais c'est deux périodes différentes.
Alors, de votre expérience, vous avez des cas, sans rentrer dans le détail encore une fois, mais est-ce que vous pouvez nous parler de cas éventuellement terminés ou de cas en cours, mais sans qu'on puisse les reconnaître, où effectivement, ça n'a rien à voir avec du pillage. Et c'est vraiment, on est sur simplement un principe, il faut restituer. Et encore une fois, là c'est intéressant de dire, effectivement, le terme restituer, ça veut dire, si on restitue, c'est que ça ne nous appartient pas. Or, le terme, finalement, n'est pas bon.
Bon, je suis lié à un secret professionnel,
bien sûr.
Impossible de m'en délier.
Non, je ne demande pas ça.
Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de demande qui ait eu lieu donc privée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de demande de pays africains contre une vente privée ou contre une propriété privée d'objets africains. Ça n'a pas encore eu lieu. Ce que je dis, c'est qu'avec ces déclarations du président Macron, c'est la porte ouverte à ce type de demandes. Elles vont arriver, ces demandes. Et il sera très difficile de s'y opposer alors, parce que jusqu'à nouvel ordre, la France reste un état de droit, et le pouvoir judiciaire, c'est pas le président qui l'a. Donc des questions seront posées aux tribunaux, ils devront se prononcer. On se souvient, c'est assez proche, des demandes de ces peuples Hopi contre trois procédures contre des ventes publiques en France. Les trois procédures n'ont pas abouti. Il s'agissait aussi d'objets que ces peuples Hopi estimaient avoir été pillés chez eux. L'angle d'attaque n'était pas tout à fait patrimonial. C'était un angle d'attaque estimant que ces objets étaient des objets sacrés. C'était très intéressant juridiquement et philosophiquement. Ça n'a pas abouti. Mais vous voyez, le problème dans ces domaines, c'est qu'on ne sait jamais où l'on s'arrête. Données, c'est données, point d'interrogation. Je débattais il y a quelques semaines et j'expliquais cela et je disais, mais où est-ce que ça peut s'arrêter? Prenez l'obélisque de la Concorde. L'historien qui était sur ma droite me dit, mais enfin, l'obélisque n'a pas été volé. Il n'a pas été volé, non. Il a été donné, mais par un souverain d'occupation, un prince ottoman. Alors, je ne vois pas pourquoi le prince ottoman qui est en place et qui donne les deux obélisques, dont vous rendrez ensuite, celui qui était toujours sur place, serait légitime. Les marbres du Parthénon, c'est la même chose, vendus, mais aussi par une armée d'occupation qui était là depuis 400 ans. Hein. Donc, est-ce que quand on occupe un territoire pendant 400 ans, alors que l'État grec actuel n'a que 150 ans d'histoire, est-ce qu'on est plus ou moins légitime ?
Et puis, un exemple que je prends, que j'ai pris dans le livre que Corinne Hershkovitch et moi-même avons écrit sur la restitution, on a employé le terme restitution, peut-être pas le bon terme, effectivement.
Mais très bon livre.
Merci. C'est la question, par exemple, des chevaux de Saint-Marc.
Oui,
qui sont, qui ont été donc emportés par les armées napoléoniennes, donc ils ont été restitués effectivement à Venise, mais Venise ne l'était pas n'importe où. Venise, c'était les Turcs qu'ils ont, qu'ils étaient pas les Turcs, ce sont les Autrichiens qu'ils ont emportés. Non, attendez, excusez-moi.
C'est dans une croisade.
Ce sont des, oui, c'est bien sûr pas du tout. C'est dans les croisades, c'est emporté, oui, de, c'est, ça vient de Turquie.
Tout à fait.
Mais la Turquie, c'était grec à l'époque. Alors est-ce que ça vient, si on les rendait, parce que pourquoi ne pas les rendre ? Ce sera la Grèce, la Turquie.
Mais ce sont, des exemples que je prends dans les petites causeries que je peux faire. Je prends toujours les mêmes exemples, dont celui que vous évoquez. Ces armées parties libérer le tombeau du Christ et finalement qui vont casser la gueule à quelqu'un qui serait plutôt un allié et emporter des choses. Et faut-il restituer ? La réponse, c'est la question de la prescription. Ça aura peut-être l'objet d'une question que vous poserez ensuite. Mais,
on reviendra sur, qu'est-ce qui va se passer.
Ce qui s'oppose à ça, c'est la prescription. Et en fait, autant la question dont on évoquait tout à l'heure du caractère inaliénable des collections publiques, règle qui remonte au Moyen-Âge, on parle souvent de 1566, l'édit de Moulins, mais en fait c'est une règle du XIIIe siècle, qui faisait partie du serment royal d'ailleurs. Hein. Le roi prêtait serment de protéger. Ce sont des règles qui ont été édictées, pas pour un État impérialiste contre l'Afrique ou contre les colonies, mais c'est franco-français. Ce sont les Français qui se méfiaient de leur souverain. Les règles de prescription n'ont pas été faites pour éviter à un État anciennement colonisé de venir réclamer des choses. C'est également franco-français et ce sont des règles qui protègent un État de droit et la sécurité juridique, c'est-à-dire nous tous.
Alors, sur le... qu'est-ce que vous pensez du fait, sans remettre en cause du tout les personnalités, qui ne sont pas d'ailleurs pour parler, Bénédicte Savoie et l'écrivain...
Windsor.
Voilà, c'est Windsor. Deux personnes, donc. Une qui est spécialiste des restitutions et des mouvements d'œuvres, mais plutôt en Europe, Bénédicte Savoie, et un autre qui est un écrivain africain, qui n'est pas forcément spécialiste non plus de ces questions-là. Donc, on les mandate pour faire un rapport. Est-ce que certains d'entre vous ont été interrogés pour ce rapport ?
Non, pas du tout.
Ça me semble...
Je vous dirais qu'une seule chose. Ouais. Des personnalités au-dessus de tout soupçon, je ne sais plus comment est la formule. Ce ne sont pas des africanistes. C'est quand même assez étonnant qu'on demande à des gens qui ne sont pas des gens spécialisés, des personnes spécialisées, quelle que soit leur qualité d'ailleurs, sur la question africaine, de se prononcer sur ces questions-là. Je ne comprends pas. Prendre également une personnalité qui a la question des spoliations dans ses compétences, c'est aussi marquer fortement, connoter fortement ce qui est en train de se passer, à rapporter, sans doute sur le terme restitution, dont on reviendra tout à l'heure.
Je pense quand même, je ne connais pas personnellement Bénédicte Savoie, mais je suis un grand admirateur de ses travaux. Je pense que c'est une personnalité qui peut être justement suffisamment neutre et avoir suffisamment de détachement par rapport à ça. J'aurais quand même cité ce qu'elle écrit à la première page de son magnifique ouvrage sur les problèmes des saisies en Allemagne, qui est sa thèse de doctorat, où elle dit même « Le champ labouré des interprétations nationalistes n'est plus à l'ordre du jour ». Donc je pense que c'est quelqu'un qui sait prendre distance. D'ailleurs, elle a créé ce terme, je sais pas si vous connaissez cela, je trouve ça fort intéressant, par rapport à toute la question sémantique. Spoliation, saisie, confiscation, conquête artistique, trésor de guerre. Elle a créé cette nouvelle locution de translocation patrimoniale. En disant, ça c'est le terme le plus neutre qu'on puisse trouver, je ne suis pas sûr que le terme fera florence, mais qui montre une certaine forme de neutralité par rapport à ces questions, parce qu'évidemment... en Belgique, quand on parle des tableaux qui ont été emportés par les Français, on parle de spoliation. Les Français, dans la littérature, parlent de conquête artistique, évidemment. Donc, le point de vue n'est pas neutre. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a une neutralité par rapport à ces questions et une compétence, peut-être pas sur l'Afrique, mais une compétence dans la réflexion théorique.
Je suis certain que c'est une personne de qualité et, en effet, ses travaux sont extrêmement intéressants. Mais quand on est spécialiste des spoliations, évidemment, on s'intéresse aux spoliations, hein. Donc la neutralité, je ne suis pas certain. Et pour le reste, je trouve et je déplore mais fortement qu'on n'ait pas eu des universitaires spécialistes de l'Afrique qui soient consultés, ou en tout cas qui soient officiellement nommés. Parce qu'on nous dira sans doute qu'on en consultera ensuite, mais ils auraient dû être nommés.
Et surtout aussi des gens de musée. Parce que d'être africaniste, c'est une chose, mais il faut aussi connaître un peu la notion de ce qu'est un musée. Quand j'entends dire des choses qui ont été justement par rapport à la construction, parce que par rapport à l'inquiétude de la conservation des objets en Afrique, et je crois, là je veux pas me tromper, mais je pense que c'était Benedetto Savoie, oui je pense que c'est plus Benedetto Savoie qui avait sorti plutôt que Felwinsar, qui avait dit oui mais quand il y a la démarche à restitution qui se fait, ça va entraîner des mécanismes de création de musées et ces choses-là, ça va suivre. Mais moi je trouve ça assez... C'est un argument assez, pour moi, assez spécieux à bien des égards. Ça ne prend pas la question de la gestion d'un musée, la création d'un musée. Il y a des questions d'argent. C'est pas parce qu'on crée un bâtiment que ça fait un musée. Ça, on peut investir. Le musée des civilisations noires, la Chine investit énormément dans ce musée. C'est la Chine qui en paye une partie, une grosse partie même, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas simplement de payer un bâtiment. Si on pense musée en tant que conservateur, on ne pense pas sur une vision sur un an, deux ans, trois ans. Nos institutions muséales ont plus de 100 ans d'existence. J'en discutais il n'y a pas longtemps sur la question du musée de Tervuren, de savoir ce que coûte en frais de fonctionnement un musée comme Tervuren par an. Vous savez, nous créons un nouveau bâtiment, c'est un projet à plus de 70 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Mais les frais de fonctionnement après qui vont être annuels, on est sur des frais qui sont pour les salaires des gens, pour l'électricité, toutes les conservations, toutes ces choses-là, c'est 6 à 7 millions d'euros par an qui sont payés par l'État. Est-ce qu'on rattrape, est-ce qu'on ça quelque chose dont on est rembourse, est-ce que l'État se rembourse par les visiteurs? Non, puisque aussi on a des politiques qui font que la culture doit être accessible à tout le monde, donc on fait des prix, et c'est fort bien, pour que y ait des entrées gratuites ou très peu chères. Donc en fait, un musée de manière générale, il faut le dire, c'est quelque chose, c'est un luxe d'État, c'est quelque chose qui est souvent à fond perdu en termes monétaires. Et c'est des choses, on a l'impression quand on parle des musées en Afrique, c'est en disant mais ça va se faire simplement, c'est allons-y gaiement, comme disait Benedetto Savoie, allons-y dans la joie. Moi je veux bien, mais j'ai un côté des fois un peu comptable. Et je me pose ce genre de... Je pense qu'il est légitime en tant que professionnel de musée de s'interroger là-dessus et de se demander pourquoi on ne s'interroge pas concrètement là-dessus.
Il y a aussi la question, mais alors je sais que vous pensez que c'est pas la vraie question parce que ça peut être résolu dans 10, 15, 20 ans des conditions de conservation des œuvres si on les restitue actuellement. Ça peut effectivement changer. Mais comme vous le disiez, même Mme Zinsou disait que les conditions n'étaient pas réunies. Il est clair que je crois qu'à Beaumet, au palais d'Abomey, il y a des œuvres qui ne sont pas conservées dans de bonnes conditions. Ce qui me choque un petit peu, c'est que Mme Zinsou dit oui, mais vous n'avez pas à vous préoccuper de ça, c'est ce qu'elle dit maintenant, hein, c'est peut-être pas ce qu'elle disait avant. Vous n'avez pas, puisque ça nous appartient, c'est pas à vous de dire comment on doit les conserver. Premièrement, c'est préjugé que ça leur appartient. On l'a dit ici que c'était pas si évident que ça, premièrement. Et deuxièmement, je trouve que c'est un petit peu choquant de dire bah, attendez, il y a des œuvres, des chefs-d'œuvre de l'humanité. On ne va pas s'en occuper, mais rendez-les-nous face à un côté, moi, qui me choque, personnellement. Bernard Deby.
Oui, mais Madame Zinsou a raison. C'est terrible, mais elle a raison. La parole politique a précédé la réflexion historique et juridique. Si je vous dis « mon grand-père était un salaud, monsieur. Mon grand-père a volé la montre de votre grand-père. Et je veux créer les conditions pour vous restituer votre montre que mon grand-père, ce salaud, a volé. Mais... je me rends compte que vous ne savez pas lire l'heure, vous n'êtes pas capable de remonter, eh bien, je ne vais pas vous le restituer. Si l'on considère, je martèle la même opinion, si l'on considère que les Français ont volé ce patrimoine africain durant cette période infractionnelle, vous devez rendre, et peu importe qu'ils ne puissent pas le conserver.
Vous parlez en juriste, c'est normal, et moi je parle en historien d'art, je suis un petit peu choqué par le vandalisme, quel qu'il soit.
On est tout à fait d'accord, mais non, nous sommes en état de droit. Je voudrais juste une petite chose.
Mais en supposant que ça soit le droit, on vous a dit que le droit était plutôt l'inverse.
Ah mais le droit est plutôt l'inverse, mais on est en train de le modifier. Et pourquoi j'emploie des mots forts? Parce que j'essaye, en vous disant cela, d'éviter qu'on aboutisse à au jour d'aujourd'hui, le droit n'a pas changé. Les biens en collection muséale ne peuvent pas être... donner, restituer, transférer, faire l'objet de prêts qui n'en sont pas. Mais la volonté politique est autre.
Alors justement, vous disiez tout à l'heure quand même, et peut-être qu'on conclura en faisant un petit tour de table aussi après, mais sur cela, sur les questions, qu'est-ce qui va se passer ? on peut changer la loi, mais vous disiez qu'effectivement, l'inaliénabilité, c'était pour protéger même du souverain.
Oui, du prince.
Donc,
oui.
Du prince, est-ce qu'on peut, quelque chose qui est inaliénable, peut devenir aliénable par celui qui veut le céder ? C'est un peu paradoxal, quelque part. Est-ce que c'est faisable ?
Mais c'est tout à fait faisable par une loi d'exception. Je parlais tout à l'heure de la loi 2010 sur les têtes maoris. On a rendu possible, aliénable, donc cédable, des biens qui étaient en collection publique.
Et alors, on va le faire maintenant, parce qu'on peut faire une loi disant que c'est simplement pour le Bénin ou simplement pour les pays africains, ou est-ce que demain, ça va remettre en cause complètement l'inaliénabilité des œuvres dans les musées français ? Et vous me direz après, peut-être qu'il en va des musées belges, parce que c'est pas très clair cette question d'inaliénabilité. En France, c'est clair, et en Belgique, je suis pas sûr que ça soit si clair que ça.
Mais je ne vais pas donner, comment dirais-je, ma recette pour que les Français restituent, mais...
Je la couperai. Parce que je rappelle que nous faisons du journalisme engagé, on ne va pas donner des armes.
Néanmoins, modifier le code du patrimoine, ça me semble compliqué, est extrêmement dangereux. Je ne pense pas que quand même le président soit tout à fait irresponsable. Ça me paraît
pas possible. Par exemple, ça n'a rien à voir.
Non,
mais pour les ABF, on va pouvoir construire sans problème. Donc, changer le code du patrimoine, c'est très facile en France.
Oui, c'est très facile. Mais là, il y aurait vraiment une porte ouverte. J'espère tout de même que quelques juristes dont je suis ont été entendus là-haut. Parce que, bon, il me semble qu'il est plus facile. On peut insérer dans le code du patrimoine le fait que les commissions en cas de déclassement doivent avoir égard à la question de la colonisation et des pillages. On peut trouver une formule. Mais la manière la plus simple, c'est de prendre une loi d'exception, comme pour les têtes maoris, avec une liste, et décréter, comme ça avait été fait, il faut revoir la loi, à compter de la promulgation de cette loi, les biens X, Y, Z ne font plus partie des collections muséales et seront restitués à tel pays. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'ils comptent procéder.
Julien Volpert ou Pierre Crise, en Belgique, qu'est-ce qu'il en est de l'inaliénabilité ?
Ça n'existe pas. Donc, l'autorité responsable peut déclasser tout objet. C'est une chose que j'ai découvert personnellement avec la fameuse affaire du Picasso de Liège. Comme on dit, en 1989, la ville de Liège a voulu vendre un chef-d'œuvre de ses collections, un beau Picasso de la période bleue, pour refinancer les musées. Et on s'est rendu compte à l'époque qu'un simple vote du conseil municipal suffisait à déclasser l'objet pour permettre la vente. Donc, au niveau de l'État, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de législation sur l'inaliénabilité comme en France.
Ça se fait assez peu, en fait. Si, parce que je crois que le Louvre a acheté dans un musée néerlandais, par exemple, ou dans les Pays-Bas.
Ah non, aux Pays-Bas, c'est tout à fait différent. Ouais, justement, moi, j'ai très peur, parce que le deaccessioning hollandais est en train de contaminer la Belgique, spécialement la Belgique du Nord. Les Flamands, évidemment, sont très tournés vers l'Hollande et de plus en plus, on dit tiens, mais finalement, ce serait une bonne solution de pouvoir vendre des œuvres qui sont dans les réserves, oubliant que 90% des œuvres des musées sont dans les réserves. Moi, j'ai un peu peur parce que les choses risquent d'évoluer et peut-être pas dans le bon sens.
Sur cette question, Julien Volpert ?
Sans rentrer forcément dans les détails, effectivement, pour les biens fédéraux, la chose est quand même beaucoup plus compliquée. Ça passe aussi au niveau ministériel, mais aussi au niveau royal, après, si je ne me trompe pas, il y a ratification.
Non, le roi en Belgique, il n'a pas le pouvoir. Donc, il signe, c'est un notaire qui signe simplement, qui promulgue les lois. Mais je peux vous dire que cette législation, elle pourrait évoluer. Il y a déjà eu, en 2009, il y a eu tout un débat sur la possibilité de donc modifier, faciliter les ventes par les musées fédéraux. Donc, et je pense que ce débat va revenir. Donc, les choses sont en train de bouger.
Alors, je disais que j'allais conclure, mais j'ai quand même oublié un point important. Nous sommes à peu près tous d'accord à cette table pour penser que transférer les collections en Afrique n'est pas forcément la bonne solution, ni même la solution morale, ni même la solution légale possible. En revanche, répondre au besoin de voir ses œuvres, d'avoir des expositions, d'avoir peut-être des coopérations accrues, etc. Ça paraît tout à fait souhaitable.
Et pourquoi pas financer par le biais en Belgique, on appelle ça la coopération au développement,
voilà.
Financer l'acquisition d'œuvres aussi pour les collections locales.
Voilà, quelle pourrait être une solution acceptable par tous, en fait, qui pourrait être de prêter, mais vraiment prêter pour un certain temps, avec des retours assurés, avec des développements, mais sans simplement prendre les œuvres à Paul pour les donner à Pierre.
Les mêmes méthodes qui se font quand on travaille, je parle pour le cas du musée de Tervuren, quand nous recevons une demande d'un musée belge, d'un autre musée belge, d'un musée européen ou d'un musée américain qui dit pour tel ou tel, nous aimerions emprunter telle œuvre ou tel ensemble d'œuvres pour une exposition, ces personnes nous contactent. Il y a des conditions de report, des choses qui sont prises en compte très précises pour des questions de sécurité de l'objet, pour des questions de conservation. Si les choses vont, on prête les objets. Mais actuellement, personnellement, ça fait pas, je savais pas si longtemps que ça que je travaille au musée, ça fait un peu plus de 10 ans, mais je n'ai jamais eu une seule demande concrète d'un pays africain pour des demandes d'exposition. Et de toute façon, ce qui prévaudra toujours, à mon sens, c'est le respect par rapport à l'objet. C'est-à-dire qu'on a des condition reports, on a certains processus administratifs et autres très précis qui sont gérés par notre gestion des collections, par nos restaurateurs notamment. Et voilà, si les conditions sont remplies, nous ne faisons pas une distinction par rapport à une question de pays d'origine ou autre. Nous suivons ce genre de choses, nous suivons des lois internes au musée.
Alors, si nous pouvions conclure sur le rôle des musées, vous savez, et spécifiquement sur la question des œuvres africaines, en un siècle, nous sommes passés d'un art dit nègre, ethnographique, nos musées étaient ethnographiques, à un art qu'on dit premier, un art classique africain. Si on est passé durant ce siècle, on a totalement changé de vision. Si on a changé cette vision, c'est le rôle, d'une part, du marché, parce qu'on oublie souvent le rôle du marché de l'art, mais également des musées. Ce sont les musées qui nous ont permis de voir l'Afrique autrement. Ce sont de grandes machines anti-racisme. Quand vous êtes entré au Quai Branly, et quand bientôt on pourra retourner à Tervuren, eh bien, on est confronté au génie de ces peuples. Le sentiment de supériorité s'en va. On était en train de mettre à zéro tout ça. Vous avez eu des conservateurs qui ont fait un travail admirable. Je pense notamment, et j'en oublie plein, mais je pense à Yves Le Fur, que je connais bien, dont je suis le travail depuis des années. Voilà quelqu'un qui a œuvré bien plus pour la cause africaine en mettant en exergue ses chefs-d'œuvre. L'exposition au Gabon récente était fabuleuse. Et on est en train de renverser la table et on oublie le bienfait, la vocation universelle des musées, et on oublie le bienfait de ces musées.
Alors aussi, toujours dans le cadre de cette conclusion, en partant de ce que vous venez de dire, Maître Deby, aussi, on peut aussi l'élargir à bien d'autres cas, parce qu'on a parlé beaucoup de revendications nationalistes, mais maintenant on en arrive aussi aux revendications sous-nationalistes, régionalistes, et où va-t-on s'arrêter ? Une petite anecdote pour illustrer ce cas. En Belgique, il y a une vingtaine d'années, la ville de Tongres a réclamé au Musée royal d'art et d'histoire, qui est le grand musée archéologique de Belgique, une borne millière romaine, objet très important, qui avait été découvert au XIXe siècle lors de fouilles à Tongres, qui est la plus ancienne ville de Belgique, une importante cité gallo-romaine. Et le ministre de l'époque avait été prêt à rendre à la ville de Tongres cette borne qui avait été mise au musée, au Grand Musée National. Mais toutes les œuvres archéologiques qui sont dans les musées nationaux, je pense à Saint-Germain-en-Laye en France, elles viennent nécessairement de quelque part. Et si chacun commence à réclamer...
Finalement, assez peu de Saint-Germain-en-Laye.
Oui, évidemment. Bon, et donc, évidemment. Et donc, si à un moment donné, chaque petit village commence à réclamer, et donc on est parti pour la gloire, les fameux tableaux français... on a bien sûr les réclamations vis-à-vis de Paris, mais en 1930, la ville de Tournai réclamait au musée de Bruxelles deux tableaux, un Jordaens et un Rubens, qui venaient d'églises de Tournai, en disant mais si on réclame à la France, pourquoi est-ce qu'on ne réclame pas aussi à Bruxelles ? Les œuvres du musée de Bruxelles, les grands tableaux religieux, ils viennent d'églises très souvent de Belgique. Et où va-t-on s'arrêter ? Donc, c'est pas seulement est-ce qu'on rend à l'Afrique, c'est est-ce que la France rend à la Belgique ? Et après, c'est, Maître Deby a utilisé l'expression qui a fait Flores Sénat, c'est la boîte de Pandore.
Si je pouvais juste rebondir,
bien sûr,
en vous invitant à regarder une émission, on le trouve sur YouTube, on le trouve. C'était une émission d'Arte de 2015 de mémoire qui s'appelait La bataille des musées. Et Stéphane Martin, dont on entend aujourd'hui qu'il serait pour ces questions de restitution, je vous rappelle que c'est un haut fonctionnaire et que quelque part il est lié.
Tout à fait. C'est ce que je voulais dire en disant qu'il n'était pas scientifique et pas conservateur. Le conservateur est lié, mais au moins ils se sont tus jusqu'à présent. Ils auraient peut-être pu avoir, en France en tout cas, un petit peu plus de courage pour dire qu'il y avait un problème, mais ils le feront peut-être le jour où ils seront obligés de restituer réellement. Mais Stéphane Martin est un haut fonctionnaire.
Dans la bataille des musées en 2015, on ne lui a pas encore donné de directive. Et il s'exprime librement. Il conclut l'émission en disant que, sur la question précise des restitutions,
en s'étant plaint d'ailleurs que d'une certaine pensée aujourd'hui qui rejoint ce que vous venez de dire, on considère parfois qu'il n'y a qu'un Esquimau qui peut comprendre l'art Esquimau. Vous voyez, c'est un peu comme si un premier prix de violon chinois n'était pas légitime à jouer de la musique européenne. Hein. C'est une régression totale. Eh bien, il conclut sur cette question des restitutions en disant, dans un monde où chacun récupère ses petites affaires, c'est un monde qui régresse. Stéphane Martin.
Je vous laisserai la conclusion, à moins que Julien Volpert.
J'aurais une petite chose, bon, encore pour rebondir sur ce que vient de dire Yves-Bernard Debye. Sur cette question justement de cette régression, de cette compréhension que seul un Inuit peut comprendre l'art Inuit, il faut savoir qu'on assiste maintenant, notamment aux États-Unis, dans cette mouvance aussi des études postcoloniales, on arrive à des choses vraiment délirantes et inquiétantes. Il faut savoir que cette année, en 2018, il y a un musée, le musée de Brooklyn, a nommé une conservatrice pour l'art africain. Cette personne, je ne la connais pas personnellement, c'est une personne qui a fait Yale, qui a fait sa thèse à Princeton, qui a fait un postdoc au Met à New York. Donc, sur le papier, en tous les cas, quelqu'un, ça n'a rien de scandaleux. Son poste, sa nomination n'est en rien scandaleuse. On n'est pas sur quelqu'un qui a fait un an d'histoire de l'art et qui est directeur de fondation. On n'est pas sur quelque chose comme ça. Mais cette femme a récupéré des critiques très très dures sur les réseaux sociaux, avec des choses qui s'apparentent vraiment à des menaces de mort. Et là, on rigole pas. On se met sur des choses quand même. Et pour quelle raison cette personne a été attaquée aussi fort sur les réseaux sociaux? Eh bien, disons-le franchement, parce que cette dame est blanche et qu'un blanc ne peut pas s'occuper d'art africain, que c'est insultant. Et ça, c'est très inquiétant. Et de lâcher des morceaux comme le fait peut-être monsieur Macron, pensant bien faire pour cette question du fameux soft power de l'art, on arrive à des modifications de société qui arrivent à des communautarismes exacerbés et à des choses très dangereuses, très très dangereuses à mon sens.
Merci à tous les trois pour ces débats qui, j'espère, auront été éclaircissants pour nos auditeurs. J'espère que nous organiserons bientôt plus de débats. La nouvelle formule de la Tribune de l'Art nous y incite, puisqu'il y a, comme vous l'avez vu sur la page d'accueil, une rubrique multimédia et qu'il faut mettre des nouveautés. Donc nous reviendrons bientôt avec un prochain débat. Au revoir, merci.